Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale. Bonjour Pierre Hiverna.
Bonjour Caroline.
La chronique La Cerise sur les gâteaux termine cette émission à 12h25. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de E171.
Oups là, on demandera à nos invités s'ils et elles savent de quoi il s'agit. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine 2. Alors, est-ce que c'est un acronyme? Est-ce que c'est un numéro aujourd'hui? Non.
Non, c'est la Madeleine du musicien Rodolphe Burger.
Alors, à tout à l'heure, 12h15. Et pour commencer, honneur à la cuisine indienne ce midi. Si en France, le 15 janvier a marqué le lancement du grand débat national, eh bien en Inde, le 15 a été le coup d'envoi du plus grand rassemblement religieux et humain au monde, le Kumbh Mela, ou fête de la jarre sacrée. Alors cap sur l'Inde, en compagnie de nos invités. Et nous voilà dans l'ambiance avec nos deux invités. Vaiju Naravane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes correspondante indépendante après avoir été notamment pour le quotidien The Hindu. Vous êtes romancière et vous êtes éditrice. Et à vos côtés se trouve Kiran Grover Gupta, bonjour.
Bonjour, namasté.
Et bienvenue, namasté. Chef cuisinière des restaurants parisiens Kiran et Kiran India. Vous êtes l'auteur en 2011 de La cuisine indienne facile, voilà qui nous intéresse. Un livre qui a paru aux éditions du Dauphin. Je commençais avec ce pèlerinage qui sert de prétexte à cette émission aujourd'hui dans Les Bonnes Choses, ce pèlerinage du Kumbh Mela. Est-ce que ce pèlerinage va y jouer au Naravane s'accompagne de rituels culinaires particuliers?
D'abord, je dois dire que quand il y a des grands festivals hindous, c'est marqué par le végétarianisme. En fait, souvent, on pense que manger de la viande ou de la chair, en fait, et polluant, en quelque sorte. Et souvent, les festivités hindoues, en tout cas, sont marquées par des mets qui sont traditionnels, qui sont salés, sucrés, qui viennent dans un certain ordre. Mais c'est aussi accompagné parfois par des jeûnes. Et puis, les jeûnes sont cassés le jour du festival avec un grand repas rituel avec toute la famille.
Kiran Gupta.
Oui, bien sûr, la cuisine est toujours végétarienne, ça, il n'y a pas de secret.
Parce que c'est quand même une des grandes particularités de cette cuisine indienne, c'est effectivement la place majeure du végétarisme en Inde, où on dit que la moitié de la population est végétarienne.
Même plus.
Même peut-être plus, on se souvient peut-être ou pas, mais du traité du végétarisme de Gandhi, qui a effectivement une place. Comment l'expliquer, cette place du végétarisme en Inde? Par la religion, Vaiju Naravane?
Les deux choses. Parce que quand on regarde la culture brahmanique, hein, avec des quatre castes, et la caste reste vraiment la pierre fondatrice de la religion hindoue. On ne peut pas séparer l'hindouisme de ces castes. Et effectivement, les hautes castes qui étaient censées être des castes les plus pures, qui étaient celui des prêtres, c'était des gens qui ont toujours pratiqué du végétarianisme, en fait. Et avant, les brahmines étaient censés d'avoir mangé de la viande, mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu, dans quelque sorte, mal vu de manger de la viande. Alors souvent, les gens mangent de la viande, mais ils ont honte de l'admettre. Et puis, les castes des guerriers et les castes qui sont plus basses, ils mangent traditionnellement de la viande, mais pas les castes des prêtres ni les castes des commerçants.
Ça veut dire, Kiran Grover Gupta, qu'il y a des règles alimentaires qui varient en fonction des castes et en fonction de la religion.
Exactement, c'est vrai, c'est complètement vrai, parce que nous, Ça veut dire, dans ma famille, on appartient à la caste Kshatriya. C'est deuxième, c'est juste après les Brahmanes. Mais nous, on n'était pas complètement végétariens parce que maman, elle était moitié végétarienne, moitié pas végétarienne. On avait le droit de manger la viande ou du poisson que les samedis ou que les dimanches. C'était la fête pour manger quelque chose différent. Sinon, tous les jours, c'était que des légumes. Et puis, on faisait des prières tous les jeudis parce que comme on n'est pas des gens qui croient à l'image, c'était le feu.
Vaiju Naravane, on mange différemment selon qu'on appartient à telle ou telle catégorie de la population, selon qu'on croit à telle ou telle religion, mais aussi selon qu'on vit à tel ou tel endroit du pays. C'est un pays gigantesque, 1 milliard 300 millions d'habitants. Déjà, on pourrait dire il y a deux grandes régions, deux grands territoires qui distinguent la cuisine. Le nord et le sud, on pourrait les distinguer
non,
comme ça.
Non, non. Je crois qu'on peut dire qu'il y a 4 grands territoires. Il y a évidemment le nord, le sud, mais dans l'est de l'Inde, vous avez une cuisine qui est totalement autre. Vous allez à Manipur, Nagaland, Assam ou Bengale, là, même les Brahmanes mangent du poisson. Mmh. Alors, allez chercher. Et puis, à côté ouest, où vous avez d'un côté le Gujarat, qui est pour la plupart végétarien, à côté, vous avez le Maharashtra, le grand état dont la capitale est Bombay, et juste au sud de ça, vous avez Goa, qui a été colonisé par les Portugais, où on mange bœuf, cochon et tout le reste. Donc, d'abord, il y a aussi cette grande différence entre les gens du Nord qui mangent des aliments à la base du blé et le Sud qui mange des aliments à la base du riz. Donc, en Inde, on vous demande, êtes-vous mangeur de riz ou êtes-vous mangeur de blé?
Blé.
On peut comprendre d'où vous êtes originaire.
Vous, par exemple, Vaiju Naravane, vous êtes originaire d'où?
Moi, je suis originaire de l'Ouest, à côté de Bombay.
Et qu'est-ce qu'on mange alors là?
Alors là, très compliqué encore, un peu comme Kiran, parce que des parents qui viennent de deux castes séparées et mélangées, donc c'est un mariage assez rare dans son temps, parce que intercommunautaire, si j'ose dire, ou intercaste, et issu d'une famille super progressive, donc on mangeait tout.
De tout, en fait. De tout ce que vous trouviez quand même dans la région, mais de tout. Oui. Kiran Grover Gupta, vous êtes originaire du Punjab, dans le Nord.
Du Punjab, Cachemire.
Quelle
oui.
spécificité trouve-t-on là-bas alors?
Nous, on mangeait beaucoup de viande.
Donc, il y a de la viande
poisson,
là-bas.
Partout. Mais il y a bien sûr les jours qu'il faut respecter. Ça, c'est pendant les périodes, par exemple, le Kumbh Mela. Vous avez 5 jours, 6 jours où on mange pas du tout la viande, on mange que les légumes. Il y aura aussi comme ça, on a 9 jours avant le Deepavali où on mange que les légumes. Il y a plusieurs...
des rituels et des règles.
Et des règles où on mange pas. Par exemple, moi, je mange pas ni le mardi, ni le jeudi, je mange la viande. Ce sont des jours sacrés dans notre famille et on mange pas la viande.
Est-ce que là-bas aussi, en Inde, traditionnellement, disons, le repas est sacré?
C'est très sacré Kiran. Parce que déjà j'explique à tout le monde, d'ailleurs comme j'ai sorti mon livre et puis je suis restaurateur, j'essaie de dire aux gens quand je leur donne les cours de cuisine, je dis écoutez, d'abord il faut faire une petite prière parce que tout ce qui se passe chez nous, dans nous, toutes les maladies, tout ça vient de ce qu'on avale. Alors il vaut mieux prier pendant qu'on fait on envoie des bonnes ondes, même pendant qu'on fait la cuisine et qu'on en mange aussi.
Vous êtes d'accord, mais, généralement...
mais c'est vrai que le repas, c'est quelque part absolument sacré. Il y a des rites et des rituels et aussi les cadences à respecter dans un repas. Donc, on commence avec certaines choses, on termine avec certaines choses. Et puis, il y a beaucoup de dits et de non-dits. Par exemple, quand il y a une femme qui tombe enceinte, il y a des choses qu'elle doit manger et d'autres choses qu'elle ne doit pas manger. On lui donne des mets spécialement préparés pour que son lait remonte pour donner le lait maternel au bébé. Donc, il y a des vieilles recettes de famille, des vieilles recettes de grand-mère qui utilisent les choses comme gomme arabica ou beaucoup de ces épices que Kiran a si gentiment apporté dans le studio pour nous. Des épices qui font chaud, les autres épices qui vous font refroidir, des épices qu'on utilise pour les maladies, les plats comme les khichdi que vous trouverez sur aucun menu dans aucun restaurant. Mais ce sont des plats très, très familiales et qui sont extrêmement presque confidentielles à l'intérieur des familles. Mais la cuisine n'est pas la même de famille en famille et de caste en caste.
Bon, il n'y a pas une cuisine indienne. Il y a des cuisines indiennes pour 1 milliard 300 millions d'habitants, faut-il encore le rappeler. Kiran Grover Gupta, justement, dans votre ouvrage La cuisine indienne facile, vous en donnez quelques-unes, des petites recettes de grand-mère ou des petits secrets de grand-mère, en particulier à propos des épices.
Exactement.
Alors, est-ce que c'est une image d'Épinal que de dire que les cuisines indiennes reposent essentiellement sur les épices ? C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai, complètement vrai. D'ailleurs, chaque épice joue sur votre corps. Si vous prenez du cumin, du curcuma, curcuma est devenu la mode maintenant. D'ailleurs, j'ai expliqué les gens, il faut surtout pas prendre le curcuma en poudre directement comme ça. Il faut toujours faire cuire, soit dans l'huile, soit dans le lait, soit quelque part. Parce qu'après, vous êtes malade et puis vous dites, voilà, je suis malade. Vous avez du cumin, vous mélangez du cumin avec le lovage. Lovage, c'est comme des herbes, un peu comme le thiol qui ressemble un petit peu à ces épices, mais il faut mélanger ça, tout ça, ça joue sur le corps. Dans l'Ayurveda, on explique tout ce que vous mangez dans le ventre, tout ce qui travaille dans le ventre va dans le corps, c'est comme ça on a grandi, et c'est pour ça il faut penser à tous les épices, ce que je vous avais apporté, du vinaigre, du curcuma, le cardamome noir, le cardamome vert, le clou de girofle, le massis, les lauriers, les cannelles, tous ces épices, ça joue sur vous. Indirectement, moi je dirais même que la cuisine indienne est un peu médicinale.
Ah, souriez, Navayjuna Havane, ça vous fait sourire qu'elle soit médicinale?
Non, elle est médicinale. Je suis totalement d'accord. Et quand vous parlez d'Ayurveda, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Inde pour se faire un cure d'Ayurveda, une des ingrédients qui est absolument essentiel dans l'Ayurveda, c'est le beurre clarifié qu'on appelle le ghee.
G-H-E-E.
G-H-E-E. Donc, on fait chauffer le beurre, on enlève les impuretés qui sont dans le beurre et ce qui reste, presque une espèce de beurre brun, si vous voulez, ça s'appelle le ghee qui
c'est
est utilisé régulièrement dans toute la cuisine parce que dans l'Ayurveda, on dit que vraiment le ghee, c'est quelque chose qui guérisse surtout votre système digestif.
Exactement. Donc, il faudrait manger presque que des épices issues, des bonnes épices.
Il faut acheter les épices en entier, faire griller un petit peu et après faire en poudre chez vous. C'est meilleur.
Vous nous avez d'ailleurs apporté quelques feuilles là, que j'ai mis dans ma main, Kiran Grover Gupta. C'est quoi ces feuilles-là?
C'est les feuilles de curry. C'est la vraie feuille de curry. Et puis, si vous sentez, ça sent vraiment le curry. Alors, les Anglais, quand ils sont venus chez nous, quand ils ont vu les plats en sauce, ils ont trouvé un mot générique comme ça. Et ils ont appelé la cuisine indienne, c'est curry. Non, parce que chaque plat a un nom. Un korma, un jalfrezi, un yakini. Tout ça, c'est des noms. Tout ce qui est curry, c'est lié avec les feuilles de curry. Et d'ailleurs, dans le poudre que vous achetez au marché, il n'y a pas la poudre, il n'y a pas la feuille de curry dedans.
Mais juste un petit bémol que je voudrais mettre ici. C'est vrai qu'on est en train de chanter les louanges de la cuisine indienne. Et c'est vrai que
traditionnelle
c'est une
aussi.
Extraordinaire cuisine, formidable et tout. Mais les Indiens, on en indulge beaucoup trop. Parce que la population indienne qui est la plus frappée par la progression de diabète type 2. C'est vraiment extraordinaire, des millions d'Indiens aujourd'hui, parce que comme
c'est
en Chine...
C'est trop sucré.
C'est trop sucré, c'est trop gras, c'est trop riche, et c'est surtout, simplement, trop.
Et peut-être pas assez des épices de Kiran.
Ça fait 42 ans que je suis à Paris.
Que vous êtes à Paris, oui.
Alors, moi, je fais une cuisine vraiment sans les crèmes.
Très saine.
Et puis, si vous trouvez des huiles à côté dans votre assiette, je change votre plat ou je vous offre le dîner ou le déjeuner.
Un croissant, un chocolat et du café.
What?
Let's go to Paris.
C'est ça, let's go to Paris. Avec vous, Natacha Triou, pour la Madeleine.
La Madeleine aujourd'hui de Rodolphe Burger, le musicien, chanteur et compositeur. Il a collaboré avec des artistes comme Bachung ou Rachita. Il est d'origine alsacienne, donc je pensais qu'il nous parlerait d'une spécialité de la région. Pas du tout. Pour sa Madeleine, du coup, Rodolphe Burger retourne aux fondamentaux avec l'authentique Madeleine de Proust.
S'il vous plaît.
Alsace, et donc j'ai quand même goûté très tôt à toutes sortes de mets qu'ils font, alors qu'aujourd'hui, madeleine, bien. Mais sans vouloir faire le malin et jouer, faire un jeu de mots, il se trouve que peut-être je pourrais choisir justement la madeleine, quoi. On sait bien que la madeleine de Proust, c'était un biscuit trempé dans le thé, mais toute bonne madeleine me fait, en effet, proustien, me remémore immédiatement des vacances en Espagne quand j'étais enfant. Alors c'était une madeleine espagnole. C'était dans un endroit qui s'appelle Javea, près de Valence. J'avais deux belles cousines. J'en avais une qui s'appelait Céline, très jolie, et une autre très jolie aussi, qui s'appelait Nelly. Et toutes les deux étaient plus âgées que moi, et j'étais vraiment, vraiment amoureux de ces deux cousines. Et Nelly, donc, je la vois là, sur la plage de Javea, dans son maillot de bain. Elle la laisse baigner, et moi, je mangeais une madeleine. Pas du tout doué pour qualifier comme ça. Et j'admire les œnologues ou même les amateurs de vin qui sont capables de préciser comme ça un goût, même les gens aussi qui parlent très bien de la cuisine et tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une madeleine après physiquement tout le monde sait quoi, c'est un biscuit ovoïde, hein, forme ovale, avec un petit renflement au milieu là. Je sais pas d'où ça vient la madeleine, faudrait enquêter. D'où ça sort, qui a inventé ce truc, cette drôle de forme. Ça se trempe, donc c'est pas pour hasard que Proust a choisi la madeleine, et c'est très bon trempé dans le thé. Là, récemment, je suis toujours à la recherche, en fait, je teste les madeleines. Alors évidemment, les madeleines industrielles, c'est vraiment infâme. Ça, je peux vous le garantir, ça n'a rien à voir avec une vraie madeleine. Et les madeleines espagnoles, il faudrait demander à un spécialiste. Ce qui fait que la madeleine espagnole, ou peut-être même de cette région-là, de près de Valence, est particulièrement délicieuse.
Et vous aussi, Natacha Triou, comme Rodolphe Burger, comme Marcel Proust, vous êtes toujours à la recherche. Il demandait, Rodolphe Burger, qu'est-ce qu'une madeleine, à quoi cela ressemble-t-il? Ben, vous avez juste eu envie d'aller relire Proust, quoi.
Voilà, à la recherche du temps perdu, et on peut lire. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorge mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi.
Merci beaucoup, Natacha Trim. Ça méritait enfin de revenir aux fondamentaux de cette madeleine de Proust. On retrouve nos deux invités qui nous parlent aujourd'hui des saveurs indiennes. Vaiju Naravane, journaliste, romancière et éditrice. Et Kiran Grover Gupta, qui est chef cuisinière de deux restaurants à Paris et auteur de La cuisine indienne facile aux éditions du Dauphin. De quoi est faite, en dehors des épices, Kiran Grover Gupta, cette cuisine indienne, en tous les cas, cette cuisine indienne que vous pratiquez? Vous avez quelques plats typiques, quelques plats signatures. Je pense en particulier à cette cuisine d'umpuk. De quoi s'agit-il? C'est pas vraiment un plat, ça. C'est une façon de cuisiner.
C'est la façon de cuisiner. Et puis, en Inde, ça existe. Mais ça veut dire, chez nous, à la maison, la grand-mère, elle préparait. C'est un plat qui était fait toujours avec du riz. Enfin, le plat d'origine, ça vient de Uttar Pradesh, et c'était les esclaves qui préparaient, ça veut dire ils faisaient un trou dans la terre et ils mettaient tout ce qu'il faut avec du riz mélangé et ça cuit avec les épices et tout. Alors un jour, il y a des rois, le nawab qui passait à côté et il a senti et il a dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est ça? Apportez-moi un petit peu. Alors il goûte et il dit, Ah non, ça c'est mon plat à moi et j'aurai ça tous les jours dans mon cuisine. Et c'est comme ça, c'est devenu un plat des riches, un plat des nawabs. Mais moi, je prépare ça sans le riz. Je prépare ça, c'est une cuisine étuée. Ça veut dire, on prépare ça moitié à la vapeur, moitié à la poêle. Et on couvre ça avec la pâte et on laisse cuire. Comme ça, la viande devient tout tendre et tous les parfums. Je mets même les épices en entier dedans pour que vous avez des saveurs complètement. Chaque épice, quand vous mettez dans votre bouche, vous avez la saveur de cette épice.
Oui, je vous ai ramené. En fait, quand on dit dampukt, le mot dam, ça veut dire la vapeur. Donner la vapeur à quelque chose. Et souvent dans l'Uttar Pradesh, pas uniquement quand on couvre le plat et vous le laissez sur un feu très 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 bas, complètement scellé avec une pâte autour du couvercle, pour que vraiment tous les parfums restent dedans. Il y a une cuisine extraordinairement lente, donc vous pouvez laisser votre plat pendant 5 ou 6 heures sur un feu très, très doux pour qu'il mijote, pour que les parfums s'ouvrent, que les épices s'ouvrent pour rendre leur âme, en quelque sorte. Mmh. Mais souvent aussi, on met un petit réceptacle à l'intérieur avec un bout de bois ou des épices avec un bout de charbon et on donne le feu. Donc, ça prend un espèce de goût extraordinairement fumé qui enrichit le plat.
Est-ce que vous cuisinez, Vaijuna Ravane?
Oui.
Enfin, est-ce que vous faites la cuisine indienne?
Oui, beaucoup.
Qu'est-ce que vous préférez?
Ah, je fais beaucoup de plats de côte ouest. Donc
de chez vous, donc?
De chez moi. Mais je fais aussi des plats de Lucknow, en fait. Ouais. Cette cuisine nawabi qui vient de Lucknow, parce que j'ai grandi à Lucknow. Donc, j'ai passé beaucoup d'années à l'école à Lucknow, qui est une vieille ville moghol. C'était la dernière ville à être attachée par les Anglais. Et effectivement, le film de Satyajit Ray, qui est Les joueurs d'échecs, c'est un extraordinaire film qui montre deux grands aristocrates qui sont en train de jouer aux échecs pendant que leur ville est annexée par les Anglais. Et leur ville est arrachée par les Anglais. Et là-dedans, vous avez quelqu'un, Wajid Ali Khan, qui est un poète prince et qui était vraiment l'aristocrate avec un très fin goût pour la vie, pour la culture, pour la poésie, pour la danse. Et effectivement, ce film parle de la vie de ce prince extraordinaire. Mais Lucknow était le summum de la culture autrefois. Et ça reste encore aujourd'hui dans l'imaginaire des gens, la capitale de la culture de l'Inde du Nord, tout ce qui signifie raffinement, tout ce qui signifie un petit peu la recherche de la beauté et de l'élégance.
Kiran Grover Gupta, vous êtes, et vous l'avez dit, en France depuis quelques dizaines d'années maintenant. Est-ce que vous diriez que le rapport des Français à la cuisine indienne a évolué entre 1976 et aujourd'hui? Est-ce que vous avez dû adapter vos goûts aux demandes des palais français, ou est-ce que ce sont eux qui se sont adaptés à votre cuisine?
Je crois que ce sont eux. Aujourd'hui, vous savez, vous avez des clients qui arrivent, qui vous disent « Ah non, s'il vous plaît, j'aime bien mon plat un peu plus pimenté que l'habitude et j'aime. » Et puis, ils connaissent bien. Ils connaissent bien qu'est-ce que c'est un korma, qu'est-ce que c'est un yakini, qu'est-ce que c'est un jalfrezi.
Un poulet tandoori.
Et poulet tandoori,
c'est bon. Que vous faites aussi. Hein.
Ça, des tandoori et chicken tikka masala, c'est connu partout. Chaque fois, les clients, ils l'ont.
Ça, c'est le cliché de la cuisine.
Le cheese nut que j'ai démarré en 77, je vous dis un petit peu là-dessus, que normalement, on fait la panier. Nan, ça veut dire c'est une fromage caillé qu'on fait à la maison et on prépare le pain avec ça. Mais comme les clients, ils aimaient pas ça, je dis à mon mari, pourquoi pas utiliser leur fromage et faire un cheese nan. Cheese nan n'est pas indien, c'est français.
Est-ce que vous savez l'une et l'autre ce qu'est le E171?
Non.
Oui, évidemment.
Ah, alors, oui, vous allez écouter avec nous l'une et l'autre la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce donc, Pierre, que le E171?
Mystère. Aujourd'hui, Caroline,
quelques jours après que Julie Gayet et Jamel Debbouze ont fait analyser leur pipi quasiment direct chez nos confrères d'envoyés spécial afin de montrer leur perméabilité au glyphosate, je voudrais vous parler d'un autre intrus possible dans nos corps de consommateurs, le dioxyde de titane, plus connu effectivement sous son petit nom E171.
C'est donc un additif.
Voilà, je rassure tout de suite nos auditeurs qui n'ont guère envie de changer leur menu après ce qu'on vient d'entendre. À cause d'une chronique anxiogène, je souhaite seulement prendre cet exemple pour illustrer ce que peut bien vouloir dire aujourd'hui en matière d'alimentation le principe de précaution. Rappelons pour commencer qu'avant 1961, aucune étiquette ne comportait quelque E que ce soit. Mais l'industrie alimentaire, voulant conserver les aliments toujours plus longtemps et faire briller ses produits, s'est mise à tâter sérieusement de la chimie. Et notre E171, qui permet notamment de blanchir, d'opacifier et de faire briller des préparations, s'avère parfait pour l'enrobage des bonbons, de la plupart des chewing-gums, mais aussi pour faire de jolis gâteaux, des soupes, des glaces. Bref, difficile de ne pas en consommer une fois dans la journée. L'ennui, c'est que sous cette forme de nanoparticules, la chose se dissémine, on ne sait trop comment, et en 2006, le Centre international de recherche pour le cancer a classé notre E171 comme, je cite, « cancérigène possible pour l'homme » lorsqu'il est inhalé. Alors, on s'inquiète ? Aucune raison, puisque s'agissant d'inhalation, le danger ne concerne que les employés des sites de production. Et puis, plus de 10 ans plus tard, l'Institut national de la recherche agronomique montre que, ingérée, cette substance favoriserait la croissance des cellules précancéreuses du côlon. Alors, on s'inquiète ? Toujours pas, car c'est une étude sur les rats et rien ne montre que les résultats sont vraiment transposables sur l'humain. L'étude est transmise à un troisième organisme, cette fois-ci européen et qui décide de tout, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, qui estime que l'étude remise par la France ne remet pas en cause sa propre évaluation de 2016 et que la seule urgence est de commander une autre étude.
Mais est-ce qu'on ne peut pas faire jouer à ce moment-là le principe de précaution et suspendre l'utilisation de cet additif ?
Eh bien, Caroline, s'agissant de ce E171, et c'est tout l'intérêt de cette histoire, le très bon score de Bruno Le Maire à l'épreuve de rétropédalage est le signe d'un réel changement dans l'appréhension de ce type de problème. Car notre ministre s'est dans un premier temps assis sur la loi de l'alimentation, votée en novembre dernier, qui prévoit bien la suppression du E171. Et pour se justifier, il a repris ses classiques. Les scientifiques n'ayant rien prouvé formellement, il est urgent d'attendre qu'ils achèvent leurs travaux, et même, tiens, pourquoi pas, on va commander une étude à un autre organisme. Bien sûr, les ONG se sont mobilisées aux côtés des parlementaires, et il n'a pas fallu plus de 48 heures à Bruno Le Maire pour revoir sa copie et signer l'arrêté d'interdiction. Mais la véritable nouveauté, me semble-t-il, est ailleurs. Et elle a pour nom Carambar, Malabar, Haribo, Carrefour, Super U, Leclerc, Picard, William Sorin, qui tous ont précédé cette décision en enlevant depuis plusieurs mois le E171 de leurs produits et de leurs linéaires, parce que le patron, c'est plus le ministre, mais le consommateur.
Ben voilà, c'était la chronique de Pierre Hiverna. Alors comme on va pas terminer sur les carambars, les malabars et les autres bonbons pleins de E171, est-ce que vous nous donniez, juste pour terminer, Kiran Grover-Gupta, un tout petit dessert sans additif de chez vous?
Oui, facile. La plus facile, c'est halva. C'est à la base de semoule avec les raisins et noix de coco. C'est très, très facile à préparer. Vous faites dorer le semoule sur une poêle avec du beurre, bien sûr. Et puis après, en même temps, à côté, vous faites, ça veut dire, si vous mettez 100 grammes de semoule, vous mettez un petit verre à l'eau bouillir avec du cardamome vert, vous mettez les, si vous avez envie, les pistaches, les noix de cajou, de raisin, ce que vous voulez, et à la fin vous mettez un peu de sucre, comme ça ça devient, dès que ça devient un peu épais, vous mélangez ça avec le semoule, vous continuez à mélanger, comme ça la semoule gonfle et ça gonfle pas dans le ventre.
Merci Kiran Grover-Gupta et merci beaucoup Vaiju Naravane d'être venu ce midi dans Les Bonnes Choses. Les bonnes choses se poursuivent. En réécoute et en podcast sur le site de France Culture, toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis à la réalisation et notre technicien du jour, Ludovic Auger, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.